la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Au moment de préparer cette chronique « Je lire », je me suis dit « Mais voyons, c'est stupide. Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment ?» Deux livres dont il a été question ce jeudi midi sur France Culture dans les Midis de Culture. Parce que j'avais le plaisir d'être invité dans cette émission en compagnie de Marie Sorbier et François Angelier pour débattre en direct depuis les Utopias à Nantes de deux livres récemment parus, Silent Jenny de Mathieu Babelais et Mon Mères et Géants de Alfred Döblin. Pourquoi refaire une chronique alors que tout est là? Il n'y a qu'à se servir. Après tout, les radios associatives et le service public n'ont certes pas les mêmes moyens, mais sont tout autant sur la sellette, donc autant se serrer les coudes, haut les cœurs, c'est parti.
...12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à vous les festivaliers des Utopiales. Au menu des midis dès 12h50, je recevrai le romancier Blake Crouch. Mais tout d'abord, place à la critique puisque la science-fiction et le genre sont à l'honneur à Nantes. Nous voilà aux prises avec deux dystopies imaginées à un siècle d'intervalle. Nous parlerons d'abord de la dernière bande dessinée de Mathieu Babelais, Silent Jenny, paru chez Rue de Sèvres, label 619, puis du roman de l'écrivain allemand Alfred Döblin, Mon, Mères et Géants, qui paraît pour la première fois en français chez Gallimard. Avec nous ce midi, en direct de Nantes, deux critiques, François Angelier, bonjour. On vous écoute tous les samedis sur France Culture dans Mauvais Gens, et Henri Landré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique et responsable d'antenne sur Jet FM, bienvenue à tous les deux. Le succès des BD Shangri-La en 2016 et Carbone et Silicium en 2020, c'est une nouvelle collaboration entre Mathieu Babelais et le musicien Toxic Avenger qui vient de sortir chez Rue de Sèvres avec le label 619. Silent Jenny, c'est le nom de la bande dessinée et elle est accompagnée d'un album digital et d'un vinyle nommé Inframonde, une fiction sonore pensée comme la bande originale de la BD, et c'est ce qu'on entend en ce moment. Mais nous allons nous arrêter sur la bande dessinée dans un futur lointain. Les insectes pollinisateurs ont disparu à la suite de grands bouleversements climatiques, poussant les humains à arpenter des paysages stériles à bord de monades, des vaisseaux-villages motorisés. Et c'est dans l'une d'elles que vit Jenny, déterminée à récupérer les dernières traces ADN d'abeilles dans l'espoir de retrouver le monde d'avant. Henri Landré, un premier avis rapide.
Je suis un peu resté à côté, mais je vais détailler un peu plus.
C'était rapide comme avis. François Angelier, qu'avez-vous pensé de cet album ?
Je suis allé dedans, c'est... Enfin, Non, j'ai partagé, j'ai fait avec grand plaisir le trajet. C'est vrai que c'est un trajet austère, aride, mais très réjouissant en même temps, à tout point de vue.
Alors, Henri Landré, avant de savoir pourquoi vous êtes resté à côté, peut-être sur l'histoire, cette recherche d'abeilles dans un monde abandonné, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, c'est en effet un principe et un récit assez limpide à ce sujet. On recherche les traces possibles d'une future pollinisation pour reprendre quelque chose de vivant sur une terre complètement aride. On est vraiment dans le récit post-apocalyptique et dystopique presque classique, et c'est d'ailleurs la volonté de l'auteur, d'après ce que j'en ai compris. Ça clôt sa trilogie de science-fiction, et donc il voulait s'attaquer à presque les grands genres de cette science-fiction. Donc en effet, cette recherche-là des abeilles, avec différents principes, notamment une miniaturisation, un certain nombre de strates qu'il faut franchir, de sous-couches où on rentre dans la terre ou dans un corps, on ne sait pas bien, qui serait presque comme des cercles des enfers dans lesquels on descend. Il y a quelque chose d'assez puissant dans cette idée-là. Voilà, j'ai juste trouvé que ça mettait un peu de temps à arriver et à rentrer concrètement dans le sujet, mais probablement qu'on va y revenir.
François, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter Jenny, qui est l'héroïne de cette bande dessinée ?
Ah ben y a pas vraiment d'héroïne au sens classique du terme. Ce sont des personnages qui sont en errance et en survivance. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pas tellement d'adhérer à des personnages selon, je veux dire, les méthodes de la bande dessinée traditionnelle où on adhère à un héros. Là, les héros sont des personnages des faits, comment dire, qui se battent pour une survie difficile. En définitive, je crois qu'on a plutôt... D'abord, il faut dire que ça succède à deux autres sommes qui sont Shangri-La et Carbone et Silicium, que l'ouvrage, donc, Silent Genie, fait plus de 300 pages.
Oui, c'est un gros album, hein. Il est massif.
4 années à Mathieu Bablet pour le faire. Donc, il y a véritablement une immersion dans un univers créé de toutes pièces. Et moi, ce qui m'a d'abord frappé, c'est le travail extrêmement méthodique, intense, minutieux, de créer une sorte d'anthropologie de l'imaginaire, de créer des nouveaux personnages, et pas tant des personnages qui existent quand même. Il y a même des scènes d'émotion extraordinaires où une grand-mère dit adieu à sa famille et à son clan avec une sorte d'euthanasie, puisqu'elle
est... Elle choisit de mourir.
Elle choisit de mourir, elle reçoit une piqûre létale. Il y a toute la famille qui est autour d'elle avec des scènes qui ont l'impression de se trouver chez une peinture réaliste du 18e où toute la famille pleure, voilà. Et donc, moi, c'est ce qui m'a frappé d'abord, c'est toute une dimension, je dirais, de la cosmogénèse, de créer un univers avec d'abord des objets technologiques, et après de lancer dans tout cela des personnages mais qui n'ont moins de force, je dirais, que le contexte général.
Mais vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Henri sur cette fiction classique post-apocalyptique, vous, le grand spécialiste de l'apocalypse?
Oui,
qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça?
Oula. Oui, c'est effectivement une volonté frontale et extrêmement organisée de Mathieu Bablet de rentrer en contact avec un genre qui est le genre post-apocalyptique. Donc on retrouve là, je dirais, ce qui font les éléments fondamentaux de ce genre. D'abord, un cadre dépeuplé, totalement dévitalisé, qui n'est plus qu'une sorte de milieu hostile, donc qui nous rend avec des couleurs qui sont des couleurs chaudes, mais qui sont des couleurs étouffantes, des couleurs toxiques, des couleurs extrêmement...
Oui, malsaines, hein. Il y a quelque chose de décomposé,
de nocif, mais en même temps, ce qui fait la force de ce travail très très long et très très abouti, c'est le détail avec lequel c'est géré. On n'est pas dans une perte des repères, on n'est pas dans une sorte d'abandon complet du matériau. Au contraire, le matériau est géré de très près.
Alors peut-être revenir justement sur le dessin, sur l'illustration. François Angeli vient de le dire, il y a un univers qui est créé, c'est extrêmement précis, extrêmement minutieux. Moi, j'ai été beaucoup marquée par le dessin charnel, hein. Il y a un rapport au corps abîmé, les peaux sont pleines de pustules, les membres sont déformés. Qu'est-ce que vous avez pensé, Henri Landré, de cette mise en scène du corps dans cette bande dessinée de Mathieu Bablet?
Le corps est abîmé, il est en effet presque avalé par l'univers, par le décor dans lequel ils se font, par les machines dans lesquelles les personnages évoluent, se déplacent, à l'image d'ailleurs de la couverture du livre où on voit ce qu'il appelle donc des monades, qui sont ces vaisseaux, ces sortes de châteaux ambulants finalement qui se déplacent et qui essayent de survivre dans ce monde dépeuplé, plus les bulles dans lesquelles s'enferment les personnages qui vont en quête de la trace possible d'un ADN d'abeille et les corps qui se défont au contact de probablement d'univers acide, hostile, qui abîme, qui mutile au fur et à mesure un bras, une main, un visage, et puis des mutations qui se font. Donc on est vraiment en plein dans cette logique déjà développé plein de fois, en effet, dans la post-apocalypse, de mutations, de virus, d'environnement malsain. Et c'est vrai que les couleurs participent pleinement à ça. Alors, des couleurs qui sont extrêmement précises, très bien d'ailleurs imprimées, la qualité de l'ouvrage est vraiment remarquable, mais justement qui nécessite une certaine exigence de lecture, en tout cas pour moi, alors c'est peut-être dû à mon grand âge, de lire à la lumière du jour et surtout pas à la lumière électrique pour absolument saisir les contrastes et les nuances de travail de couleurs qui permettent de lire d'autres choses à l'intérieur de ce livre et de cette bande dessinée. Au-delà du texte et du récit, il se passe énormément de choses dans les cases, et c'est peut-être ça qui m'a perdu aussi. Il y a un foisonnement d'informations qui mérite plusieurs lectures probablement.
Peut-être formellement aussi, il y a une attention, il m'a semblé, aux pleines pages, hein. On y trouve des plans, des plannings. Comment vous les avez envisagés, comme des informations ou peut-être même comme des respirations dans ce livre assez dense, Henri?
Alors, il y a en effet les cartes qui rythment
comme des chapitres finalement, ce livre, des cartes qui sont des fragments seulement de ce monde en désolation, des fragments dont on ne sait pas bien d'ailleurs à quel niveau ils se situent, dans des sous-couches profondes de la réalité géologique ou peut-être des êtres eux-mêmes. Il y a quelque chose d'assez psychanalytique aussi dans la manière dont on s'enfonce au fur et à mesure dans quelque chose qui se rapproche de la mort. Et les cartes rythment et font respirer aussi cette densité-là. Ce sont des cartes qui sont dans des aplats plutôt jaune, ocre, et qui, d'un seul coup, même si elles ont ce rapport au sable et probablement à la suffocation désertique, c'est des cartes qui d'un seul coup, ouvrent un peu le paysage. Et puis, il y a une très belle scène qu'il va être difficile de résumer ici, mais qui arrive assez tardivement dans le livre, où le blanc de la page va prendre énormément de place, vers la page, je crois, de mémoire 250 ou par là. Et le blanc de cette page, l'utilisation du blanc de la page et de la réduction des cases, et même de la disparition du dessin, donne comment dire, une respiration certes, mais surtout une dimension très très puissante au récit à ce moment-là.
Alors François Angelier, vous l'avez évoqué, certes on est dans un monde désolé, il n'y a quasiment plus rien de vivant, ou en tout cas c'est ce qu'on cherche, mais pourtant Mathieu Bablé a une attention, il me semble, aux angoisses humaines. On n'est pas que dans un devenir machine.
C'est-à-dire qu'il y a trois plans, il y a trois éléments fondamentaux dans Silent Jenny. Il y a d'abord la situation globale qui est celle d'un monde dévasté. On pense évidemment au cycle Mad Max, c'est très proche de Mad Max, beaucoup plus que de la route d'un Cormac McCarthy où véritablement il y a une déliquescence et une décomposition de l'univers qui d'ailleurs corrode aussi le langage et l'écriture. Là on est plus dans un Mad Max, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un monde qui est devenu inhabitable, qui n'est devenu absolument incapable de nourrir les survivants. Donc il faut inventer autre chose, ou il faut retrouver au sein de cette ruine et de cataclysme des éléments restants, des isolats qui permettent justement de maintenir la vie. Donc il y a premier élément. Le deuxième élément, ça va être effectivement comment réagir, donc avec à la fois les fameuses monades qui font penser au château. Il y a un côté Miyazaki.
Miyazaki avec ses châteaux
entre
volants.
Mad Max et Miyazaki. Là aussi, les personnages s'organisent dans des unités autonomes qui se déplacent, qui se combattent un peu et qui s'observent de loin.
Et qui sont le siège de la communauté, c'est
voilà,
dans ces modèles-là.
Qui sont en même temps des biotopes, c'est-à-dire les rares capacités encore à rester en vie. Et puis, à l'intérieur de tout cela, il y a les personnages qui, malgré tout, génèrent de l'émotion. Alors, je parlais de l'euthanasie, de la mort volontaire de la grand-mère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a parce qu'à un moment, il y a un personnage qui dit « Ce sont des enfants de l'Apocalypse, ils sont nés sans insouciance. » Et c'est ça aussi qui est marquant, c'est qu'à la fois, il y a un côté ludique chez les personnages, puis on a toutes les générations sont présentes, mais en même temps, les personnages sont obsédés et tendus vers l'idée de survie. Donc ça crée une émotion qui est beaucoup plus complexe que ces espèces de guerriers de l'Apocalypse qui sont toujours dans l'affrontement et soit le vol, le rapt là, pour la survie. Là, il y a tout à l'intérieur de ces monades, il y a véritablement des éléments familiaux, claniques, qui génèrent une émotion, qui est une émotion par le fait même qu'ils sont obsédés par l'idée de ne pas mourir. Et puis, il y a toute cette technologie de bricoler qui est là, les fameux microïdes, toutes les combinaisons, les pèlerins, les manches-cailloux, qui sont des espèces de tribus errantes assez vindicatives. Et tout cela arrive à se composer. C'est peut-être là la grande réussite du livre, c'est d'arriver à mêler sur le mode de l'émotion et d'une émotion à la fois intime et épique toute une espèce de saga post-apocalyptique. Et ça, c'est très réussi.
Il y a aussi un poids de l'administration. Ils sont toujours en train d'essayer de remplir des formulaires ou de devoir remplir
le formulaire.
Ça, c'est quand même une gageure. Henri Landré, est-ce qu'il y a dans ce monde-là, dans le monde de Mathieu Bablé, une possibilité de réenchantement ? Est-ce que ça s'ouvre à un endroit ?
Alors, c'était le cas dans ses précédents livres, mais volontairement pas dans celui-ci, même si la fin n'est pas si apocalyptique que ça, mais on va essayer de ne pas la révéler. Même en disant ça, je viens de rater un peu le propos. Je reviens sur la question de l'émotion. C'est justement peut-être ce qui m'a manqué. J'ai pas réussi à m'accrocher à ce point au personnage et à l'émotion qu'il dégage, même si les scènes sont, comme le décrivait François, vraiment bien senties. On les ressent, on les perçoit, mais j'avais été très emballé par son précédent, Carbone et Silicium, contre toute attente. Je l'avais lu presque par hasard, on va dire, et cette histoire d'amour entre deux robots était tellement émouvante. Il parvenait à rendre émouvant des machines Je suis arrivé dans ce Silent Genie avec un bon état d'esprit et l'envie de m'y accrocher. Et puis finalement, je suis un peu resté à côté de tous ces moments d'émotion. Même le titre même, Silent Genie, cette Genie qui est donc silencieuse, on comprend un peu pourquoi elle est silencieuse, on le voit un peu, mais c'est pas aussi incarné que ce que j'aurais pu attendre. Alors c'est peut-être, voilà, c'est des impressions de lecteur, c'est des moments de vie aussi, c'est le moment où on le lit, pourquoi est-ce que ça nous parle ou pas. Et j'avais l'impression de passer à côté d'éléments d'émotion qui sont en effet là, mais qui ne me parlaient pas suffisamment pour me laisser embarquer dans leur saga et de les observer finalement se débattre dans ce monde de manière un peu extérieure.
Silent Genie, je ne sais pas si vous voyez hein, l'album qui est sur notre bureau. Voilà, François vous le montre, c'est quand même un très bel objet. La nouvelle bande dessinée de Mathieu Bablé vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres et l'auteur sera présent ici à Nantes, aux Utopiales, demain, vendredi et samedi pour une série de rencontres. On vous précise tout ça sur la page des Midis.
12h, 13h30, les Midis de Culture. Marie Sorbier.
On poursuit notre programme avec un roman de 1924 d'Alfred Döblin. Alors l'écrivain allemand, surtout connu pour son célèbre roman de 1929, Berlin, Alexanderplatz, adapté à l'écran de nombreuses fois et notamment aussi en série télé hein, par Rainer Werner Fassbinder, c'était en 1979. Toute l'œuvre de Döblin a été interdite par la censure hitlérienne. Alors dans « Monts, mers et géants », qui sort pour la première fois en français chez Gallimard dans une traduction de Michel Van Thuys. Il imagine ce qu'est devenu le monde au 23e siècle. Les humains ont déclenché une série de catastrophes, réchauffement climatique, migration forcée et violente, manipulation génétique, armes chimiques, et le tout sous fond de guerre qui oppose l'Est et l'Ouest.
Plus personne ne vivait de ceux qui avaient survécu à la guerre dite mondiale. Précipités dans la tombe, les jeunes hommes qui étaient revenus des batailles avaient pris possession des maisons laissées par les morts, avaient conduit leurs voitures, pris leur place, exploité la victoire, surmonté la défaite. Précipités dans la tombe, les jeunes filles qui allaient minces et radieuses par les rues, comme si jamais guerre n'avait eu lieu en Europe entre les hommes. Précipités dans la tombe, les enfants de ces hommes et de ces femmes qui avaient grandi, avaient réparé les maisons dont ils avaient pris possession, peuplé les usines que les morts avaient édifiées et abandonnées. Le mur des générations s'était comme lentement effondré, les couchant les unes sur les autres. Elles s'enfonçaient dans les sombres demeures creusées par les éléments. Derrière elles, déjà, se levaient les nouvelles générations. Les écluses libéraient leurs flots sur le monde abandonné.
Vous venez d'entendre quelques phrases lues par Marceau Vassy de ce roman « Monts, mers et géants ». François, qu'avez-vous pensé de cette dystopie de 1924 ?
Alors, j'avoue que c'est quand même un choc violent, parce, à la fois sur le plan, je dirais, de l'histoire littéraire, l'histoire du genre, littérature dans post-apocalyptique, littérature de l'imaginaire, et un choc de lecture. Parce que, bon, en début de saison, nous avions eu Tova Hangar de Céline Minard.
Qui est ici d'ailleurs, Céline
Minard.
Oui,
qui est présente au festival, que je salue. Tova Hangar, c'était vraiment un choc parce qu'il y avait une tentative extrêmement aboutie, approfondie, d'essayer de confronter, je dirais, la littérature à un nouveau discours et à une nouvelle manière de dire, un nouveau monde comme ça, de faire qu'on n'est pas sempiternellement un nouveau monde avec un vieux récit, essayer de trouver le nouveau récit du nouveau monde, donc de renouveler complètement la notion de personnage, la notion de narration, la notion de vocabulaire, avec quand même quelques précisions données au lecteur par un lexique et une carte, mais malgré tout, l'immersion à l'intérieur d'une sorte de nouvel univers lexical et linguistique pour dire un nouveau monde. Bon, alors je veux dire, bon bah oui, 2025, on en est là, tentative forcenée à partir de Los Angeles et tout. Et voilà que Gallimard, sans nous prévenir, nous balance dans les pattes un roman absolument vertigineux de Alfred Döblin, « Monts, mers et géants », traduit par le grand spécialiste donc Michel Van Oosting, qui a déjà traduit énormément Alfred Döblin, qui a beaucoup écrit sur lui, qui est un spécialiste universitaire. Et j'avoue que j'ai été soufflé, sidéré, de voir que c'est le Tova Hangar de 1924. C'est-à-dire que Döblin, bon, pour moi, c'était, comme tout le monde, Berlin-Alexanderplatz, un roman du réalisme critique, avant-gardiste, sur le Berlin de l'époque de la République de Weimar, adapté au cinéma par Rainer Werner Fassbinder. Donc bon, voilà, pour moi c'était ça. Après, quelqu'un qui s'orientait vers justement toujours de plus en plus ce réalisme critique révolutionnaire, très, très violent. Et la figure de Döblin, ce médecin, car il y a beaucoup de médecins sur la République de Weimar, les Gottfried Benn, les Musil et autres, qui apportaient justement une sorte de pratique de la littérature très, très spécifique et même assez violente. Et là, je trouve ce roman tout à fait extraordinaire, en 9 chants, qui tente de raconter véritablement la fin du monde, une sorte de climat post-apocalyptique qui embarque toute la civilisation humaine après une tentative de maîtrise des machines, la dictature des machines, l'impérium des machines, avec des personnages, une géographie refaite au gré du pouvoir économique, et tout ça dérivant vers une sorte de submersion généralisée et mythique. Moi, j'ai été assis. Véritablement, je trouve que ça devrait être lu par tous les amateurs de science-fiction, de post-apo, de littérature avant-gardiste. C'est la révélation.
Alors, Henri Landré, c'est pas facile hein, de poursuivre après cette grande démonstration de François Mangelier, qui a en effet mis le paquet. Mais vous, alors, quelle a été votre impression de lecture sur Montmers et Géants ?
J'ai été, comme François, d'abord bluffé, presque choqué, en effet, d'entrer dans cette littérature avec des inventions littéraires assez folles, qui va être difficile de résumer ici.
Mais par exemple, pouvez-vous nous donner un exemple d'inventions littéraires qui vous ont bluffé ?
Alors, inventions ou reprises littéraires, peut-être que c'est des choses qui ont déjà été faites ailleurs, mais que je n'avais pas lues jusque-là. Par exemple, l'absence parfois de ponctuation, de virgule, qui lui permet d'accélérer le mouvement au sein même d'une phrase. J'ai un tout petit exemple, mais qui va peut-être pas être très flagrant ici, et il faut que je chausse mes lunettes. C'est à l'orée du livre 7, mais c'est des phrases qu'on retrouve très souvent, où il dit par exemple, ils revoyaient le soleil de leurs grands yeux étonnés et investigateurs, démons de feu, crémation infernale, de tout ce qui rampe, vole, sautille, blanche et ondoie, mer de flammes libérant des nuages. Et en fait, le rampe, vole, sautille n'a aucune virgule, ça s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on est dans une totalité des êtres vivants qui, à ce moment-là, se font cramer par le soleil, tout simplement.
Donc on parle de chant, on parle aussi de partition dans ce que j'entends.
C'est ça, il y a quelque chose de très rythmique dans cette manière-là d'accélérer le mouvement, quand bien même, pourtant, il le ralentit à plein d'endroits. Puisque au gré des différents livres, donc il y en a 9 en tout, les différents livres qui constituent des sortes de gros chapitres, eh bien, on traverse plusieurs siècles, puisqu'on part du 23e siècle pour arriver au 27e siècle. Donc on a quelque chose qui s'étire dans le temps, principalement dans les 2-3 premiers livres, et ensuite on va se poser un peu plus longuement dans le 27e siècle, mais il y a quelque chose d'extrêmement étiré, compressé à la fois, dans le même mouvement, et qui est très déstabilisant dans un premier temps, mais qui donne envie d'avancer, d'en savoir plus, quand bien même on se perd, et je m'y suis perdu.
Ah, donc il y a un mais dans votre critique.
Il y a un mais parce que au bout d'un moment, je n'arrivais plus à suivre à quel endroit j'étais, qui, quoi, quand. Les personnages, s'il y en a certains, arrivent de manière parcimonieuse, durent un certain temps, disparaissent. Il y a les figures assez charismatique, ceci dit, de certains tyrans comme Marduk, par exemple, dont un livre entier lui est consacré. Mais malgré ça, peut-être un peu en regard du livre de Mathieu Babelais dont on parlait, je n'ai pas réussi à m'attacher suffisamment à des personnages ou des endroits qui permettraient de comprendre où va ce récit qui est tellement choral qu'il faudrait plusieurs lectures pour y revenir, peut-être en séquencer les parties, avoir plus de temps pour le lire. Peut-être un livre par mois, donc 9 mois pour le lire. C'était pas le cas pour cette émission. Un champ après l'autre.
On y lit François Angelier une critique violente du capitalisme techno-industriel. Mais est-ce que Döblin propose une alternative ou est-ce qu'il s'acharne à annoncer l'effondrement ?
Les deux, en général. Je veux dire, c'est une sorte de littérature qui est plus là pour prévenir et pour flécher un avenir qui sort. C'est un livre de 24. Et alors, un article paru dans Esprit, la revue Esprit, là, récemment, en septembre, le met en parallèle avec toute une série de publications de la République de Weimar, puisqu'on est en pleine République de Weimar, donc il est nécessaire de tirer les leçons de l'effondrement de la Première Guerre mondiale et de faire en sorte qu'on évite d'aller encore plus loin dans la catastrophe et dans l'apocalypse. En partir de 1933, on verra à quel point on n'y est pas arrivé. Et donc, l'auteur de l'article, qui s'appelle Christophe Solliot, le met en parallèle, ce livre de Döblin, avec des livres comme « Le déclin de l'Occident » d'Oswald Spengler, « Les derniers jours de l'humanité » de Karl Kraus, les films de langue, notamment « Le docteur Mabuse », mais on peut rajouter « Nosferatu », ça, donc le film de Murnau. Donc, on est vraiment dans un climat qui est à la fois totalement angoissé, totalement paniqué, qui cherche à comprendre ce qui s'est passé, qui cherche à éviter une surenchère dans l'horreur et dans, je dirais, une sorte de rapide. On a le sentiment que l'histoire est prise dans un rapide. Vous savez, c'est comme dans les films d'aventure, le monsieur avec son petit bateau, son canoë, et qui brusquement sent que le courant, le flux s'accentue et respire au loin la présence de la chute colossale, de la espèce de cataclysme qui vient, et tente de pagayer à l'envers pour s'arracher au flux.
Mais donc vous diriez que c'est aussi un livre d'aventure ?
Et alors, c'est à la fois un livre d'aventure, c'est en même temps, c'est tout à la fois. Je veux dire, ça fait un peu penser aux poésies de Sandrars à la même époque, c'est-à-dire à quelque chose qui est à la fois totalement avant-gardiste sur le plan de l'écriture, puisque comme le disait notre ami, on est véritablement dans une espèce d'explosion du récit. Il n'y a plus vraiment de personnage. De temps en temps, il y a un personnage qui sort la tête de la mêlée pour nous faire un signe ou pour faire une grimace ou pousser un cri d'horreur et puis qui replonge dans cette espèce de panique. Et voilà, et tout ça se suit comme ça dans une sorte de flux généralisé. Et c'est ça, à mon avis, la force extraordinaire du roman de Dublin, c'est de faire sentir à quel point le rapide s'accélère et qu'on va vers une espèce de chute finale dont on ne savait pas encore en 24 ce qu'elle serait, mais en 45 par contre on a très bien compris de quoi il s'agissait.
Et en 2025, alors Henri Landré, est-ce qu'on peut lire aujourd'hui encore ce livre politiquement? Est-ce qu'il a une résonance? Il parle du 23e siècle, on l'a dit, mais pour les lecteurs d'aujourd'hui, est-ce que ça résonne?
Il a une résonance, en effet il faut recontextualiser. Alfred Dublin, en 1923-1924, quand il écrit le livre, toute la désespérance qu'il peut avoir à la sortie de la Première Guerre mondiale et de tout. Et ce livre, finalement, n'est peut-être rien d'autre qu'une histoire du pouvoir, une histoire de la conquête, puisque pendant plusieurs livres, des peuples différents ou des genres différents s'acharnent à prendre le pouvoir et à être plus tyranniques les uns envers les autres au fur et à mesure du temps. Donc il y a une désespérance totale sur le genre humain. Donc on peut tout à fait la comprendre de manière contemporaine.
Il a écrit un roman visionnaire en couverture.
Je peux me permettre un tout petit extrait. Alors pour voir aussi le pessimisme de Blin, c'est page 131, donc plutôt sur le début du récit. C'est une des personnes qui a pris le pouvoir, qui recommandait la castration. Il devait émasculer les nouveau-nés. Alors on pourrait espérer que la terre aurait meilleure allure dans 50 ans. Mauvaises herbes dans les prairies, quelques maisons encore habitées par des vieux, mais des animaux sauvages faisant déjà leur réapparition, la terre s'apaise, l'espèce homme est liquidée, la terre entière a besoin de se remettre de l'homme. C'est quand même très puissant comme manière d'entrevoir l'humanité et le devenir de la terre. Et c'est assez pessimiste, c'est assez catastrophiste et en même temps assez réaliste aussi. Et il y a une manière comme ça d'entrevoir ce que pourrait devenir la terre au XVIIe siècle, une fois débarrassée de ces questions du pouvoir, si jamais elles peuvent se débarrasser, ces questions du pouvoir, si elles peuvent disparaître sans que disparaisse l'espèce humaine.
Tiens, je vais vous demander de montrer encore au public ici présent à Nantes ce livre, Mon, Mer et Géant d'Alfred Dublin, vient de paraître aux éditions Gallimard pour la première fois en français. Merci beaucoup Henri Landré et merci François Angelier. Merci pour vos lectures précises. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes les références de ces deux ouvrages sur la page des Midi de Culture sur le site de France Culture.